Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. À Gaza, on résiste pour exister et on existe pour résister. Ainsi s'exprime le poète palestinien Ziad Medouk, longtemps empêché de sortir de Gaza. Ce militant, par la parole et l'écrit, était à Paris voici quelques jours pour recevoir, enfin, le prix international de la poésie francophone qui lui a été décerné en avril dernier. Pour Orient Hebdo, il explique pourquoi il écrit en français et quelle forme de résistance ses poèmes engagés magnifient. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Ziad Medouk, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza en Palestine, poète, écrivain d'expression française. Vous avez gagné le premier prix de la poésie francophone lors du concours Europoésie 2016, un prix que vous n'avez pas pu recevoir lors de sa remise, c'était au mois de juin, car vous n'avez pas été autorisé à sortir de Gaza par les autorités israéliennes. Néanmoins, comment avez-vous accueilli cette distinction ?
Ma nomination donc et l'attribution de mon premier prix poétique pour moi et la trois sens. Le premier sens, il montre d'abord l'importance de la culture et de la poésie dans la résistance en Palestine. Deuxième aspect, c'est développer donc des liens et des échanges sur la francophonie. Ça montre un peu que à travers la francophonie, à travers la langue française, les Palestiniens, elles peuvent sortir de leur enfermement à Gaza et essayer de passer donc un message. Et troisième aspect, c'est un aspect symbolique pour moi. C'est une reconnaissance donc francophone internationale, pas seulement de mon talent, mais surtout une reconnaissance de la souffrance des Palestiniens, notamment à Gaza, enfermés depuis 10 ans à cause de ce blocus israélien inhumain. Mais surtout, c'est une reconnaissance du rôle des jeunes, des femmes, des enfants dans la société palestinienne aujourd'hui.
Alors, vous dirigez également le Centre de la paix de votre université à Gaza. Quelles actions menez-vous dans le cadre de ce centre ?
Écoutez, c'est vrai, le département de français où je dirige, donc c'est un département ouvert pour les étudiants qui préparent une licence de français avec des cours et des activités variées, notamment avec des liens avec le monde francophone, notamment avec le Skype et les visioconférences quand on n'arrive pas à sortir de Gaza. Mais le Centre de la paix, c'est un centre basé à l'université, mais il est ouvert à tout le monde. Donc, on organise des formations, on organise des rencontres sur la démocratie, les droits de l'homme, le rôle des femmes dans la société. C'est un centre qui essaye un peu de développer des échanges autour de ces notions, de ces valeurs entre la jeunesse palestinienne à Gaza et la jeunesse donc internationale.
Aujourd'hui, comment vit-on à Gaza sur le plan social ? On a l'impression d'une prison à ciel ouvert.
Écoutez, la bande de Gaza depuis longtemps était une prison ouverte. Qu'est-ce qu'elle a changé aujourd'hui ? C'est les trois nouvelles et dernières offensives militaires israéliennes en 5 ans, 2009, 2012, 2014, qui ont aggravé la situation. Et en dehors des nombres considérables des morts, en particulier, et majorité des civils, mais il y a des destructions massives. Ici, on va prendre l'exemple de la dernière offensive militaire 2014. Nous sommes aujourd'hui en 2016, 2 ans. On peut qualifier la situation par un mot. Rien n'a changé à Gaza. Il y a toujours le blocus, il y a toujours la fermeture de frontières. Et il y a toujours plus de 10 000 personnes à Gaza vivent sans abri. Ils vivent soit dans des caravanes inhabitables, soit ils vivent dans des tentes à côté de leur maison détruite. Ça montre un peu que Israël interdit l'entrée de matériaux de construction à Gaza. Aujourd'hui, la situation est terrible. La situation est en dégradation permanente. Chômage qui dépasse 67% de la population active. Mais il y avait quelques signes d'espoir comme l'éducation, comme l'attachement à la terre et que la patience des Palestiniens et surtout que les Palestiniens aujourd'hui, ils gardent un espoir d'un lendemain meilleur, lendemain de liberté et de paix.
Alors dans votre recueil « Gaza, terre des oubliés, terre des vivants », vous avez exprimé en français l'amour de la patrie, l'attachement à votre ville natale, la résistance par la non-violence, l'éducation et la fidélité à la terre. Pourquoi avoir choisi le français ?
C'est une grande histoire entre moi et la langue française. Actuellement, la langue française, pour moi, c'est une langue d'ouverture. C'est une langue de liberté, c'est une langue d'échange avec le monde francophone, c'est une langue d'espoir. Pour moi, si je veux revenir, comment j'ai appris le français tardivement à l'âge de 34 ans. J'ai étudié et je lisais beaucoup la littérature française traduite en arabe. C'était Jean-Jacques Rousseau, c'était Descartes, c'était Victor Hugo, c'était Émile Zola. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à apprendre français, j'ai redécouvert cette littérature avec la langue maternelle, c'est-à-dire avec le français, et c'est magnifique. Et depuis 10 ans, je viens souvent en France pour des colloques, pour des conférences. J'ai eu de la chance de sortir donc de Gaza en 2003-2004 pour venir à Grenoble préparer mon master en sciences de langage, et en 2009 à Paris 8 pour faire ma thèse. Et depuis, donc, je fréquente la France quand les frontières ouvrent de Gaza. Pour moi, la langue française, c'est surtout une façon de garder l'échange avec un monde francophone de plus en plus solidaire de la cause palestinienne comme cause de justice.
Alors, à propos de votre résistance par la non-violence, que peut un poète qui n'a comme arme que son stylo ?
Écoutez, nous sommes occupés en Palestine et nous avons 3 ou 4 formes de résistance. Résistance militaire, résistance par la non-violence, résistance politique. Il y a une résistance magnifique, c'est la résistance de cette population civile à Gaza comme en Cisjordanie qui a décidé de rester malgré toutes les mesures atroces de l'occupation comme le mur, la colonisation et les barrages militaires, 450 barrages militaires en Cisjordanie. Mais malgré ça, donc, les Palestiniens, ils ont décidé de rester, de résister, de rester attachés à leur terre en début de toute cette situation difficile. Pour moi, Palestinien, j'ai choisi la non-violence, ça veut dire j'ai choisi ma plume, j'ai choisi la culture, j'ai choisi la langue française pour résister sur place et pour témoigner de la situation difficile sur place, mais surtout pour garder l'espoir avec les étudiants, avec les jeunes, à travers des projets concrets. Mais surtout, la langue française, pour moi, c'est une langue d'ouverture vers le monde francophone, d'essayer de garder le contact avec ce monde et à travers la France et la francophonie, le monde entier.
L'été à Gaza n'est pas l'été d'ailleurs. C'est un été très particulier. Un été merveilleux où surnage une beauté qui transperce les yeux. Un été lumineux, un été vivant. Un été ensoleillé aux nuits tranquilles. Un été plein d'espoir. Un été doux fleuri aux rayons de chaque heure. Mais c'est un été passionné, passionnant et bouleversé, qui apparaît dans le sang et la patience, un été qui même la poésie la plus colorée et le grondement des textes écrits ne pourrait décrire, un été sans vacances pour les enfermés. En été, à Gaza, à l'horizon sans nuages et dans le ciel, l'ombre chuchote. En été, à Gaza, le soleil est ardent. Il est magnifique l'été à Gaza. Les arbres fruitiers sont couronnés de 1000 fleurs. Le figuier, le résiné et le dattier donnent vite des fruits. À Gaza, l'été semble s'éterniser. Les soirées sont trop longues, sans lumière, sans électricité. Seules les étoiles tentent de briser l'obscurité de ce morceau de terre oublié, soumis aux atroces mesures d'une occupation qui aime les ténèbres et déteste la clarté.
Vous parlez beaucoup dans vos écrits de la jeunesse et aussi des femmes. C'est les jeunes et les femmes, c'est l'avenir pour cette région ?
Écoutez, il y a un aspect très important chez nous, c'est l'éducation. Donc malgré la destruction de beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, et malgré le chômage et l'absence de perspectives, et malgré les frais d'inscription, notamment dans les universités palestiniennes, qui ne sont pas soutenus par l'autorité palestinienne, mais malgré ça, on voit que les familles palestiniennes, ils continuent à envoyer leurs enfants à l'école, soit dans les écoles, soit dans les universités. Et on a vu, le lendemain de la fin de la dernière agression israélienne en 2014, on a repris les écoles malgré, et on a repris les cours à l'université. Donc notre rôle, nous, comme universitaires, comme intellectuels, c'est rester à côté de cette jeunesse pour leur donner un peu d'espoir. C'est pour cela que nous, on essaye d'attirer ces jeunesses. Pour nous, les jeunes, ils ont un rôle très important dans la société. 60% de la population active dans la bande de Gaza sont des jeunes. et 80% des étudiants dans les universités sont des jeunes filles. Donc ça montre que l'avenir, c'est pour les jeunes, pour les femmes. Donc on doit rapprocher de ces gens et d'essayer de comprendre leurs inquiétudes, leurs loisirs, leurs espérances pour essayer de participer à le réaliser. C'est pas toujours évident dans le contexte de guerre, de violence, d'occupation. Et le fait que aujourd'hui les jeunes palestiniens, ils ont décidé de rester, de ne pas partir, malgré toutes les mesures d'occupation, c'est un signe d'espoir pour l'avenir.
Ziad Medouk, vous mentionnez souvent dans vos poèmes l'espoir d'un lendemain meilleur pour Gaza et pour la Palestine, un lendemain de paix et de liberté. Alors le fait qu'il y ait deux pouvoirs politiques, l'un à Gaza et avec le Hamas, l'autre à Ramallah avec le Fatah, qui vient d'ailleurs de tenir son congrès de renouveler Abou Mazen, n'est-ce pas un frein au règlement du conflit avec Israël ?
Écoutez, pour moi personnellement, donc je suis toujours optimiste et c'est pour cela dans mes poèmes, dans mes écrits, dans mes témoignages, dans mes messages, j'utilise toujours les trois mots paix, mais une paix dans la justice parce qu'il n'y aura pas, il n'y aura jamais une paix sans justice, paix, justice et surtout espoir parce que, pourquoi l'espoir? Parce que nous, les Palestiniens, nous avons perdu tout, nous avons perdu l'approche, nous avons perdu la maison. Il nous reste seulement une maladie qui s'appelle l'espoir. C'est avec cette maladie d'espoir que les Palestiniens aujourd'hui, ils existent et ils continuent à patienter et affronter toutes les mesures, atroces de l'occupation israélienne, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza. Donc, pour revenir directement à votre question sur, malheureusement, l'état des divisions, ça montre un peu c'est un malheur qui s'ajoute au malheur des Palestiniens qui souffrent de l'occupation et qui souffrent de la colonisation et qui souffrent de toutes les mesures de l'occupation. Je pense que la division aujourd'hui, malheureusement, on assiste à deux pouvoirs, deux gouvernements, un gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas et un gouvernement en Cisjordanie dirigé par le Fatah, l'autorité palestinienne, qui vient de élire donc Mahmoud Abbas comme président après le 7e congrès de Fatah à Ramallah. Je pense que les Palestiniens doivent comprendre, s'ils veulent obtenir et réaliser leurs revendications, ils doivent unifier leurs efforts. On n'est pas encore le cas parce qu'on a plusieurs formes de résistance. Il n'y a pas une forme qui attire et qui unifie les Palestiniens parce que les Palestiniens ils sont divisés. Et on a vu avec le nouveau soulèvement populaire en 2015 qu'il n'est pas soutenu ni par l'autorité palestinienne ni par les factions militaires. Mais je pense que les Palestiniens ils doivent comprendre que ils devraient comprendre que c'est difficile d'affronter et de négocier avec les Israéliens sans l'unité nationale. On n'est pas arrivé là. Mais je pense que qu'est-ce qui se passe personnellement dans les territoires palestiniens comme division, c'est honteux pour tout le peuple palestinien.
Merci Ziad Medouk, poète et écrivain palestinien de langue française, directeur du département français de l'université Al-Aqsa de Gaza.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous avez reçu le premier prix de la poésie francophone parmi 200 participants venus de 40 pays lors du concours international organisé par l'association Rencontre Européenne Europoésie.
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les youyou et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire. Pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Michel, la loi qui vise à légaliser les colonies illégales de Cisjordanie, adoptée en première lecture au Parlement israélien, fait des vagues.
Le sujet qui fait la une de la presse tout au long de la semaine, le grand mensonge de la droite, estime un chroniqueur pour Haaretz dans un éditorial, c'est encore une brique dans le mur de l'apartheid qu'Israël est en train de construire. Les journaux se penchent surtout sur le sort qui est réservé à l'avant-poste illégal d'Amona dans le nord de la Cisjordanie. « C'est la fin », crie un chroniqueur sympathisant. « Cette fois, nous irons jusqu'au bout », affirme un commentateur de droite qui parle même de guerre. « Pas de violence physique, mais une opposition passive », ajoute-t-il. La presse désigne le grand vainqueur de cette partie de bras de fer qui a duré plusieurs semaines et qui a violemment secoué la coalition gouvernementale. Il s'agit de Naftali Bennett, le leader du parti du foyer juif à l'aile droite du gouvernement. Un quotidien le qualifie de ministre tout sourire désormais et un éditorialiste fait remarquer qu'en fin de compte, la coalition du premier ministre Benjamin Netanyahou est plutôt sortie renforcée de cette affaire.
Et puis aussi, Michel, la situation en Syrie et les interventions de l'aviation israélienne contre des cibles proches de Damas.
La presse israélienne se contente dans la plupart des cas de citer des articles publiés à l'étranger. Les journaux cependant reprennent en bonne place les propos du ministre israélien de la Défense. Avigdor Lieberman proclame qu'Israël œuvre pour empêcher l'acquisition par le Hezbollah d'armes de destruction massive. Un éditorialiste du journal libéral Haaretz analyse la situation. Il se penche notamment sur les rapports curieux qu'entretient Israël avec les protagonistes du conflit syrien et plus particulièrement avec la Russie. Le titre de l'article est explicite, sur la corde raide.
Alexandre, ce n'est pas l'attentat à la bombe d'hier au Caire qui préoccupe la presse arabe, mais la situation à Alep, en Syrie.
La presse arabe mentionne l'annonce par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, de la suspension des opérations militaires sans trop y croire. Un scepticisme renforcé par ce que plusieurs journaux qualifient de « discours de la victoire » de Bachar el-Assad, considérant déjà la chute d'Alep comme le début de la fin de la guerre en Syrie. Plusieurs éditorialistes sont même passés à l'après-Alep. Ils se penchent sur le cas d'Idlib, la ville du nord-ouest de la Syrie, vers laquelle se replient une grande partie des combattants, ou des djihadistes selon les partis pris de chacun. Idlib, siège de la prochaine hécatombe, titre un journal estimant que la concentration de djihadistes dans cette ville en fera une cible privilégiée pour l'aviation russe, mais aussi pour la coalition conduite par les États-Unis. Une situation qui ne pourra qu'empirer avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis en janvier, estime un commentateur.
Question Alexandre, le courant moderniste arabe a-t-il échoué, ouvrant ainsi la voie au fondamentalisme islamiste ?
Le journal Ash-Sharq al-Awsat répond d'emblée par la négative en soulignant que le courant fondamentaliste régnait en maître absolu dans le monde arabe, soumis au joug du califat ottoman jusqu'au début du XIXe siècle. Il fait remonter le début du modernisme à la première mission d'études dépêchée en France en 1824 par le vice-roi d'Égypte Mehmet Ali. Refa'a el-Tahtawi, imam de la mission, revient admirateur des institutions françaises et lance un appel à la modernisation du monde arabo-musulman. Depuis lors, estime le journal, un combat incessant se livre entre modernisme et fondamentalisme avec des hauts et des bas dus notamment aux gouvernants arabes dits « progressistes ». Ils ont libéré les nations sans libérer leurs citoyens, ce qui a laissé le champ libre aux fondamentalistes. Toutefois, conclut le journal, nul ne peut nier les progrès accomplis, même s'ils restent relatifs.
Michel, désormais, les juifs éthiopiens peuvent donner leur sang.
C'est un événement qualifié d'historique. Les membres de la communauté éthiopienne en Israël vont donc pouvoir faire des dons de sang. Jusqu'à présent, ils protestaient contre l'interdiction qui leur était faite. Dans le passé, la presse avait révélé que des poches de sang prélevées chez les juifs éthiopiens avaient abouti en fin de compte dans la poubelle. L'égalité par le sang, titre Yediot Aharonot, les barrages sont tombés, souligne un autre quotidien.
Pour conclure, votre photo du jour, Michel.
Eh bien, c'est la photo d'une statue de Benjamin Netanyahou, une statue dorée qui a été érigée face à la mairie de Tel Aviv, place Yitzhak Rabin. Apparue en pleine nuit, cette sculpture de Netanyahou s'inscrit dans le cadre d'une série d'actes souterrains politico-artistiques d'un artiste israélien, le sculpteur Itai Zalait. Un happening qui a provoqué beaucoup d'agitation médiatique avant qu'un partisan du Premier ministre ne déboulonne la statue, tout simplement. L'artiste, lui, a été condamné à une amende symbolique.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons la question des fouilles archéologiques à Jérusalem. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.